Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on soutient le festival de la BD d'Angoulême qui commence en partie le week-end prochain. Nous recevons une grande comédienne qui publie un livre confidence autour de sa mère très célèbre et on part en forêt sous la neige au Canada. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La comédienne Sarah Biasini publie un livre touchant sur la maternité. Elle raconte son histoire personnelle liée à sa maman, Romy Schneider, disparue prématurément. Un récit qui explore le lien entre une mère et sa fille. C'est le Grand Prix d'Angoulême 2020. Emmanuel Guibert est déjà sur place pour une exposition en marge du festival qui va décerner prochainement le prix 2021. Il publie un petit bijou graphique qui imagine la rencontre entre un balayeur et un smartphone. Et vous allez l'entendre. Le sujet va bien plus loin et nous concerne tous. Nous irons aussi dans une forêt canadienne sous la neige avec la Québécoise Gabrielle Filtoshiba qui publie chez un éditeur québécois et un éditeur français. Elle porte un regard singulier sur la nature qui va sans doute vous ressourcer. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France à Orléans dans la librairie Les Temps Modernes. Katia Courteau est aussi avec nous. Elle est au Canada, elle dans la librairie Le Port de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Pour la Suisse, on retrouve Dominique Bressoud de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Et on va vous donner la parole à toutes les deux en début d'émission parce qu'au Canada et en Suisse, les librairies sont fermées en raison des nouvelles mesures sanitaires. Alors que voulez-vous dire à vos clients respectifs, Dominique et Katia? Dominique par exemple, en Suisse?
Bien que les livraisons à domicile ont repris, si elles se sont jamais arrêtées d'ailleurs, parce qu'il y avait tout de même des gens en quarantaine. Et puis que là, j'espère juste qu'il ne va pas trop neiger, parce que sinon, ça va être avec des chiens et un traîneau, quoi. Mais pour le moment, ça va.
Voilà, vous pouvez commander vos livres et aller les récupérer sur le pas de porte, hein, c'est ça? Ou vous livrez? Comment ça se passe?
Non, je livre. Je livre à domicile, toujours dans les boîtes à lait. Mais on peut venir récupérer sur le pas de porte un jour par semaine, mais a priori, je livre à domicile.
Bien, Katia, vous aussi, hein, on peut venir récupérer le livre à la librairie.
Oui, voilà, c'est la grande différence. Maintenant, les clients peuvent venir récupérer en cueillette les livres à la librairie. On espère vraiment que le 8 février, on pourra réouvrir. Mais voilà, on continue à répondre à vos commandes, à vos questions en ligne avec les libraires.ca, sur le site leslibraires.ca. Et évidemment, ben, on vous écoute au téléphone aussi et on a très, très hâte de vous retrouver.
Bien sûr. Voilà, le click and collect qui n'est pas du tout francophone, c'est plutôt cueillette hein, au Québec. Et c'est un joli mot. C'est très joli, effectivement, vous avez raison de l'utiliser. Enfin, Déborah Damblon, vous représentez la Belgique dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous, les librairies sont ouvertes hein, en Belgique, tout va bien pour l'instant.
Ah oui, parlez pas de malheur que ça reste
non,
ouvert.
Je parle pas de malheur. Il y en a déjà assez, ça va aller. Merci d'être avec nous toutes les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Et bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour Emmanuel.
Cette musique est la sonnerie d'un téléphone dans votre bande dessinée. Votre personnage demandera au téléphone « Pourquoi tu joues de la zik ?» Et le téléphone répond « Je ne joue pas de la zik, je sonne ». Quelle est la sonnerie de votre téléphone Emmanuel?
Eh bien, j'ai saisi la fine allusion, on est en train de l'entendre, donc c'est Sunday Bloody Sunday de
ah oui, c'est ça.
De YouTube.
Oui, vous utilisez
voilà,
ça vous-même.
Il se trouve que la propriétaire du smartphone en question, dont il est question dans l'album,
ouais,
a choisi cette musique comme sonnerie pour son engin.
Et c'est la vôtre aussi ou pas?
Ah non, non, pas du tout.
Non, d'accord.
Moi, j'ai les jeux de tam-tam habituels.
Bon, vous êtes en liaison depuis Angoulême, où vous préparez une exposition, puisque vous avez obtenu le Grand Prix l'an passé, et vous publiez une BD de 100 pages, conçue avec de petites histoires courtes qui se suivent quand même. Un balayeur des rues trouve un smartphone dans la rue, un téléphone intelligent, très intelligent, puisqu'il parle.
Oui, c'est surtout un smartphone qui en a ras-le-bol. Il n'est pas tombé d'une poche au moment où le balayeur met la main dessus, ou veut mettre la main dessus. Il a sauté volontairement d'une poche parce qu'il est devenu totalement allergique, intolérant au contact des doigts humains. Il veut plus qu'on le touche.
Ouais.
Donc il est sur ce trottoir et il fait une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, c'est de regarder le ciel. Parce que dans toute la première partie de son existence, chaque fois qu'il voulait regarder le ciel, il y avait toujours une tête entre le ciel et lui. Et là, pour la première fois, il regarde passer les nuages et il se lasse pas de ce spectacle. Il en parle d'ailleurs au balayeur et ça fait penser au balayeur qu'au fond, lui non plus, il voit jamais le ciel parce qu'il est toujours en train de regarder le trottoir.
Et, oui.
Et les seules occurrences qu'il a de regarder le ciel, c'est en reflet dans le caniveau, dans les facs de gasoil, ou alors ce beau spectacle qu'on a tous vu qui sont les avalanches de nuages qui passent sur les pare-brises.
Alors c'est un sujet un peu particulier. Hein. Je vais vous avouer, Emmanuel, que franchement, quand j'ai vu le sujet, j'étais réticent et mon fidèle collaborateur m'a convaincu. Donc il avait raison parce que c'est une perle, votre BD, une vraie perle. Vous analysez comme ça avec subtilité, l'air de rien, notre rapport à nos téléphones et surtout notre regard sur ceux qui nettoient nos villes. Et finalement, on respecte plus son téléphone que le balayeur de son quartier.
Et oui, c'est, on lui accorde évidemment une importance constante dans la mesure où il est greffé à nous et qu'il est devenu un de nos organes. Et ce téléphone, donc, qui s'est évadé, rencontre quelqu'un qui, a priori, est bien éloigné de lui. Oui, d'abord, il se trouve que mon balayeur, dans l'histoire, il a un bon vieux téléphone à touche. Avec lequel grosso modo il se contente de téléphoner, et ce qui est devenu au fond le cadet de nos soucis quand on l'utilise essentiellement pour consulter internet ou prendre des photos,
ouais, c'est ça, ouais.
Et accessoirement de temps en temps on téléphone, mais c'est de plus en plus rare. Et c'est de là on entame une discussion qui dure, comme vous l'avez dit, 100 pages. Ils se rendent compte qu'ils sont très différents, mais comme toujours quand on commence à causer, on finit aussi par se trouver des points communs.
Oui, c'est ça, oui, ils deviennent copains.
Et ils deviennent copains, une relation sinusoïdale, ils sont copains par moments, des fois ils s'énervent, ils se courent un peu sur le haricot, et ça va, ça vient, jusqu'au dénouement. Voilà.
Alors quand on perd son smartphone, on est démuni. Alors on dit téléphone intelligent plutôt au Québec que smartphone, mais c'est vrai que c'est la panique, Emmanuel Guibert, quand on perd son téléphone.
Alors le smartphone, en l'occurrence, il est bien content, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un évadé.
Ah, le vôtre, oui.
Sa propriétaire, on la voit un peu plus tard dans le livre, elle apparaît brièvement, elle s'appelle Marie-Pierre, elle est infirmière libérale, et elle veut absolument remettre la main sur son smartphone parce que depuis qu'elle en est perdue, elle se rend compte qu'il y avait tout dedans. Toute sa mémoire, non seulement évidemment le compte quotidien de ses pas, de ses globules rouges et tutti quanti, mais aussi bien sûr ses codes bancaires, tout son fichier client, etc. Enfin, tout ce qu'on sait qu'on met dans nos smartphones, puisque le smartphone siphonne de plus en plus nos existences,
oui, c'est ça.
En engrangeant toutes sortes de données qu'on se dispense nous de retenir du coup.
Il y a aussi cette obsession de tout prendre en photo, on le voit dans votre BD, de tout partager finalement et de ne pas vivre l'instant présent. On vit comme ça à travers l'écran de son téléphone, et votre téléphone dira ça ne va pas du tout, je suis incapable de regarder ce qui me plaît sans le photographier et l'envoyer à Pierre-Paul ou Jacques, c'est nerveux.
Oui, bah évidemment, comme il est en burn-out, comme on dit aujourd'hui, mais pas au Québec, il a une certaine lucidité qui l'a mené d'ailleurs au geste qu'il a fait, cette évasion. Cette lucidité, il l'exerce en discutant avec le balayeur. Au début, il faut dire que c'est une sorte de logorée, quoi. Il tombe sur le balayeur et le balayeur devient le réceptacle de tout ce que ce smartphone a dû avaler au fil des années, parce que son problème, c'est ça, c'est le trop-plein.
Bon, allez, on va laisser la place à nos libraires, voir ce qu'ils ont pensé de cette BD atypique, mais qu'on vous conseille, hein. Vraiment, c'est une perle, je le répète, parce que franchement, Emmanuel, il y a plein de choses, il y a plein de trouvailles géniales. La France et la Suisse, on commence par qui ?
Commençons par la Suisse.
Allez, allons-y, Dominique Bressou.
Alors moi, j'ai adoré cette BD, parce que ça commence tout doucement, comme une plaisanterie, comme des poils de balai qui chatouillent une surface. Et puis petit à petit, c'est le grand nettoyage. L'auteur met en lumière toute la dépendance qu'on a vis-à-vis des smartphones et les scories s'amoncellent. Et ce qui est presque poignant là-dedans, c'est que le balayeur, qui paraît pourtant fort équilibré et lucide, succombe lui aussi à cette dépendance. En fait, c'est une BD qui fait beaucoup réfléchir et après, on regarde son téléphone avec un œil très soupçonneux.
Très soupçonneux, c'est vrai. La France avec Sophie Todescato, êtes-vous d'accord ?
Alors, moi, j'ai été un peu réticente au début parce qu'il me semblait que le sens passait un peu trop par les dialogues et pas tout à fait assez par l'image. Il est incurablement bavard, ce téléphone. Mais au fur et à mesure, le rapport s'équilibre et malgré le peu de détails, le peu d'arrière-plan ou de décor, eh bien, la silhouette du balayeur, elle devient pourtant assez vite un vrai personnage et même un personnage en mouvement. Et en fait, c'est très, très fort, c'est très talentueux.
Oui, c'est vrai que le dessin est très minimaliste, Emmanuel Guibert.
Oui, mais j'ai pas toujours pas pêché de ce côté-là, j'ai tendance plutôt à chiader en règle générale mes dessins.
Bah oui.
Mais là, je me suis rendu compte que dans ces pages, qui à l'origine paraissaient dans un hebdomadaire, ça allait en effet causer beaucoup. C'est le principe, c'est le sujet, la parole.
Ouais.
Le smartphone est quand même, je concours, j'espère, pour le personnage le plus rudimentaire que la bande dessinée ait jamais produit. Puisqu'il s'agit d'une petite virgule de 3 mm sans épaisseur, qui est évidemment dénuée de toute expression. Quant au balayeur lui-même, je me suis rajouté une difficulté supplémentaire, c'est que je l'ai privé de ses yeux et de sa bouche. Donc tout devait passer en fait par ses gestes.
L'attitude,
et
ouais.
Ça me paraissait un défi intéressant, et qu'on se rapproche de ce personnage, non seulement par ce qu'il dit, mais sans doute aussi un peu par ses attitudes.
Est-ce qu'on a accepté une vie d'aliéné, une vie avec des nouveaux principes aussi, à cause des smartphones? On devient moins humain et paradoxalement moins sociaux, selon vous?
Je suis traversé, comme tout le monde, par toutes sortes d'idées contradictoires sur cet objet. Ces idées contradictoires, d'ailleurs, je les expose en partie dans le livre, qui n'est pas totalement un réquisitoire, et pas non plus qu'un plaidoyer, qui est un livre qui essaye de tirer un constat sur à quoi sommes-nous passés, en effet.
Mmh. Alors, quel constat?
En quoi avons-nous dérivé?
Quel constat, concrètement?
Alors moi, je suis un quinquagénaire, donc il est évident que j'ai connu une bonne partie de ma vie sans cet objet, d'autant plus que j'ai été très longtemps réticent. Je n'ai eu un smartphone qu'il y a 3 ans maintenant.
Ah oui.
Donc je suis un nouveau,
c'est
nouveau
pour
converti,
ça.
Un
c'est
peu par
ça.
Force.
oui.
Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à rédiger cette histoire, je n'avais pas encore de smartphone.
Oui, alors c'est un hold-up, comme vous le dites à un moment, le hold-up du siècle. Mais ce qui en fait un chef-d'œuvre de hold-up, écrivez-vous, c'est que les gens se braquent tout seuls.
Oui, et je dessine pour, en l'occurrence, je remplace le smartphone par des flingues que nous tenons tous dirigées vers notre front ou vers notre oreille. Et en effet, j'ai l'impression qu'avec notre consentement, il y a un hold-up qui a lieu. Et ce hold-up consiste à nous extraire de l'endroit où nous sommes pour nous emmener ailleurs, en fait, systématiquement ailleurs.
Oui.
Je crois que l'un des principaux problèmes du smartphone, c'est que nous ne sommes plus où nous sommes.
La conclusion du téléphone énoncée au balayeur. Vous laissez les smartphones prendre une place démesurée dans vos petites affaires. Voilà la conclusion aussi. On a appris jeudi la mort de Jean Graton, créateur de Michel Vaillant à l'âge de 97 ans. C'est une grande personnalité de la BD qui disparaît. Emmanuel Guibert, vous qui êtes sur place en ce moment à Angoulême, juste avant le festival, quelle est votre réaction?
Oui. Évidemment, comme tout le monde, enfin en tout cas comme tous les garçons de ma génération, j'ai lu les histoires de Michel Vaillant quand j'étais enfant, et ce monsieur a eu bien sûr une résonance considérable parce qu'il a vendu énormément de livres, et il y avait peu de bibliothèques de bandes dessinées bien fournies qui n'avaient pas quelques-uns de ses albums. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours triste que quelqu'un disparaisse.
Ouais,
à 97 ans, il est évident que il s'agit certainement d'une vie bien remplie. En plus, c'est un empire. C'est-à-dire qu'il a, je crois que ses enfants, voire
oui,
petits-enfants.
Ils ont repris,
repris le flambeau. Mmh. Voilà. Donc Michel Vaillant pas mort. Steve Warson non plus.
Bien sûr. Bon, merci beaucoup, Emmanuel Guibert. Le smartphone et le balayeur est paru aux éditions Les Arènes BD. Il y a aussi un roman que vous paraissez chez Gallimard, Mike.
Bah, le fait est que l'un comme l'autre ont été commencés il y a 3 ou 4 ans. Et il m'a fallu tout ce temps-là pour y réfléchir et pour les mener à bien.
Non.
Le livre, en l'occurrence, est un livre sans images et qui dresse le portrait d'un ami architecte qui, comme moi, pratiquait le dessin d'observation.
Ouais,
donc
ouais.
C'est aussi beaucoup un livre sur le dessin d'observation.
Et une belle histoire d'amitié aussi. Le Festival d'Angoulême se tiendra cette année du 24 au 27 juin. Mais à partir du 29 janvier, l'exposition du lauréat de la précédente édition s'ouvre donc avec vous, Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert en bonne compagnie, c'est le titre. Et le Grand Prix 2021 sera décerné le week-end prochain. Merci Emmanuel, à bientôt.
Je vous remercie de votre invitation, à bientôt, au revoir tout le monde.
Au revoir, à suivre notre hommage à Jean-Pierre Bacri et Sarah Biasini dans la librairie francophone. Ce sera après l'artiste Clou.
Le jour je fais des efforts. Hélas quand la ville dort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour je bats les records. Mais quand change le décor. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là. cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore, hélas quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Ah, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi. Oh, oh, oh. Se jouer de moi.
C'était Clou avec Cesse, Cesse.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
On a appris cette semaine, brutalement, la mort de Jean-Pierre Bacri à l'âge de 69 ans. Bacri, formidable acteur, râleur subtil, personnalité hors norme, intègre et désabusé, il disait dans la vie et à l'écran les vérités qu'on aimait entendre. Son duo avec Alain Chabat dans cet improbable film Didier a marqué une génération entière. Il était émouvant dans Selon Charlie ou Un air de famille, hilarant dans Le sens de la fête, sombre dans Le goût des autres, il crevait l'écran, il nous faisait réfléchir sur la vie à chaque instant. Jean-Pierre Bacri était difficile à interviewer, j'en ai fait l'expérience, mais on ressentait toujours une sorte de bienveillance. On était en confiance car il était généreux. J'ai tellement aimé nos échanges à la radio, même si parfois il faisait mine de malmener l'entretien. Il était sincère et drôle, tellement drôle. Voici un florilège pioché dans une émission avec lui, réalisée en 2009 lors de la sortie du film Adieu Gary pour l'émission Escale Estivale en France sur France Inter. Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film-là, dans le scénario en tout cas?
Bah, c'est le scénario, justement.
Non, mais
c'est vrai, ce qui m'a plu dans le scénario, c'est le scénario. Franchement, non, mais c'est vrai, je le maintiens, c'est pas pour faire une blague. Je dois arrêter de répondre là ou bien je peux
non,
continuer.
Non, vous pouvez continuer, ouais.
Non, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je décide de faire un film, c'est parce que le scénario m'a enthousiasmé, qu'il y a un ensemble de choses, de l'humanité, du talent, du savoir-faire, qui fait que le scénario me paraît imparable et que je me dis je serais un imbécile de pas être là-dedans, quoi. Voilà, ça. Donc c'est effectivement tout le scénario qui était superbement écrit.
Mickey 3D, c'est tout nouveau. Méfie-toi, l'escargot. Je vous assure, c'est le titre.
Méfie-toi, l'escargot,
c'est... Oui.
C'est bien.
Excusez-moi.
Non, je ne savais pas que c'était ça le titre. Vous êtes sûr que c'est Méfie-toi, l'escargot, ou bien vous avez bu trop à 11?
Je vous assure que c'est ça. Voilà, et voilà. Donc Mickey 3D.
Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'il se méfie, les escargots, de façon.
Oui,
façon,
en même temps, il y a de quoi se méfier, ouais.
Escale estivale.
Ça, c'est un vrai truc militant, quoi.
Et ce Francis, il est un peu froid, un peu bougon, mais il paraît très sensible.
Vous me connaissez, moi je fais que des trucs bougons.
Vous êtes pas râleur, vous?
Non,
bah non.
Pas du tout.
Bah
non, je fais des personnages bougons, c'est ma spécialité.
Mais alors justement, dans ce film-là, ce que je trouve, Jean-Pierre, si je peux me permettre, c'est que vous laissez une certaine distance comme ça, vous imposez des silences, vous êtes souvent dans l'attitude, plus que dans la parole, comme vous avez l'habitude de le faire. Et du coup, ce personnage, ce Francis, là, qu'on entend, il devient homme à part entière, ce n'est plus un ouvrier à notre regard.
J'ai envie de dire, hamdoulah.
Vous êtes d'accord?
Ça vous a surpris?
Non, je ne sais pas. Rien ne me surprend.
Non, mais je veux dire, je suis content de ce que vous me dites. Ça prouve que de temps en temps, je peux trouver un rôle à peu près correct, quoi.
Finalement, hein.
Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis content. Je progresse. Je voudrais progresser chaque jour. En fait, il y a une espèce de connivence, on voit ça sur tous les plateaux de télé et sur tous les plateaux de radio. Et que ce soit avec les hommes politiques ou avec les artistes, et c'est ça que je disais tout à l'heure, il y a une espèce de connivence qui s'installe entre le journaliste et l'invité, qui voudrait comme ça que, à la question que je te pose, tu me répondes un petit peu dans une espèce de langue de bois convenue. Non, mais écoutez, je vous dis ce que je sens.
D'accord.
Et je vous dis ce que je sens en général et pas avec vous. C'est pas du tout...
Bien sûr, c'est d'une façon générale.
Et donc on s'installe en général dans un ronron, Où l'artiste, parce que ça s'appelle quand même des artistes, hein, il faut bien le dire, se sent obligé de répondre ce que le type a plus ou moins voulu lui suggérer comme réponse.
C'est pas faux, ouais.
C'est vrai.
Ça s'appelle de la promo, ça, Jean-Pierre.
Oui, puis ça s'appelle une habitude qu'on a tous de faire de la langue de bois, même dans la vie. Il y a des gens, peut-être j'en fais partie, qui passent leur vie sans avoir une idée personnelle. Ils y sont là, ils se jettent d'une idée reçue dans l'autre. Pourquoi pas? Mais parler, c'est vivant quand même.
Évidemment, mais rien de pire que la promo.
Ce que je veux vous dire, c'est que là, on est en train de vivre. Là, en ce moment, vous et moi et monsieur, là, on est en train de vivre parce qu'on se met en danger, on se dit parlons-nous.
Ouais, c'est vrai.
Et il se passe quelque chose, c'est forcément. Vrai. Alors évidemment, il se passe pas des choses avec des souris, c'est pas Jean-Pierre Foucault, d'ailleurs, j'ai rien contre lui, je m'en fous. Mais je veux dire, c'est pas un truc de paillettes et de là, t'as gagné un million. Mais c'est vivant, on se parle et moi, je trouve ça formidable.
La librairie francophone.
Voilà, beaucoup d'émotions à écouter Jean-Pierre Bacri. Bonjour Sarah Biasini.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous
Merci
publiez
vous.
La beauté du ciel aux éditions Stock. C'est une grande confidence sur votre manque maternel. Votre mère est morte alors que vous aviez 5 ans. C'était un deuil impossible à faire car vous étiez déjà trop petite. Mais en plus, vous avez grandi avec le souvenir populaire de Romy Schneider. On vous en a parlé sans cesse, sans compter les films qui passent à la télévision. Sissi Impératrice à chaque Noël par exemple, elle était sans cesse autour de vous.
Oui, mais c'était pas terrible. Si vous voulez, je veux choquer personne, mais on ne peut pas avoir du chagrin pour quelqu'un qu'on a peu connu. Moi, ce que je voulais explorer, j'ai eu beaucoup de chance dans ce qui m'est arrivé parce que j'ai reçu énormément d'amour maternel de deux femmes notamment. Donc des bras, des bouches pour me serrer, m'embrasser et des oreilles pour m'entendre. J'en ai eu à foison. Et si vous voulez, ce que je voulais explorer aussi, c'est comment une famille vit avec ses morts. Et effectivement, ma famille m'a beaucoup parlé de ma mère, et c'est, je pense, qui a contribué à faire de moi quelqu'un de sain, parce que elle était très vivante à l'intérieur de notre maison.
Dans la famille, ouais. Vous dites à un moment quand même détester parler de votre mère en public, vouloir la garder pour vous. Même une couverture de magazine vous fait mal. Vous auriez aimé en avoir l'exclusivité, mais ce n'est pas possible. Alors pourquoi tout partager aujourd'hui avec ce livre, Sarah ?
Mais je partage pas autant que ça, finalement.
Ah oui.
Parce que je parle de la mère, je parle du rapport maternel et de l'amour maternel. J'ai toujours un moment, je me dis, ah tiens, c'est elle ma mère.
Ouais.
Ou quand j'entends son nom, je dis, ah oui, c'est ma mère. Mais parce que chez moi, on ne m'en parle pas en me disant son nom. Et son nom, pour moi, c'est l'actrice. Et effectivement, j'ai envie de garder une part d'elle à moi. La façon que j'ai trouvé de le faire, c'est de... Je ne sais pas comment dire, pardon.
D'écrire un livre, par exemple. Sauf qu'il est pour votre fille,
c'est
ce
vrai.
Livre.
Oui. Mais voilà, de pas... je m'en fiche de son nom d'actrice. Je m'en fiche un peu et voilà.
Alors, il y a eu un moment transitoire qui vous a permis de réaliser, finalement, de vous confronter à ce drame de votre vie. C'est la profanation de la tombe en 2017. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Bah, on est un peu quand même, on se dit, mais pourquoi, ou qu'est-ce que tiens, c'est vrai que ça m'a beaucoup secoué. Enfin, j'ai beaucoup pleuré, et je comprenais pas pourquoi ça me faisait autant pleurer, parce qu'elle était déjà morte depuis un certain temps, et puis par bonheur, le cercueil n'avait pas été atteint, donc voilà, c'était juste une pierre tombale déplacée, bon, et puis tout avait été bien remis en ordre, bon. Mais si vous voulez, d'abord, et c'est surtout la conjonction des deux événements, de cette profanation et une procréation 3 semaines plus tard, alors que bon, j'étais jamais tombée enceinte de ma vie. Là, je me dis.
Vous le cherchiez quand même à être enceinte.
Bah oui, ouais. oui, mais j'étais pas non plus comme une forcenée. Enfin, je commençais à me dire bon, ah bah tiens, si, il va falloir que je fasse appel. Non, mais attendez, je vais pas raconter tout mon parcours médical non plus.
mais je vous le dis dans le livre.
Non, je le raconte pas tant que
ah
ça.
Bah quand même.
Je dis que j'ai fait deux. Oh, ça va, c'est pas. Il y a plein de femmes. Non, faut pas exagérer. Non, je vous assure. Ouais. J'étais sur le point, effectivement, de me dire tiens, merde, il va falloir que je fasse appel à des chimistes. Et des...
Ouais. Non, parce que je veux dire. Par là, sans
pardon,
rentrer dans le détail, c'est que vous vouliez un enfant quand même.
Bien sûr, oui. Je voulais un enfant, mais ça, on est des milliers, et millions
arrive,
de femmes.
Et il arrive à ce moment-là.
Et il arrive dans ces circonstances-là, et là, je me dis, là, il faut regarder ces morts différemment. Mm. Il faut apprendre à aimer ces morts. Les morts nous donnent des choses, et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça, et je me suis dit, déjà, c'est vrai que j'avais le désir profond d'écrire, de me retrouver seule avec mon carnet de notes et mon stylo ou mon ordinateur. J'aurais été hypocrite de pas utiliser ma propre histoire parce qu'il faut tacler ces choses compliquées.
Ouais. Alors, ce qui est très étonnant et très troublant, Sarah Biasini, c'est que vous êtes enceinte de votre fille à l'âge de 39 ans. Et Romy Schneider est enceinte de vous au même âge.
Votre mère, oui. Oui.
Oui, non, votre mère, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Romy Schneider?
Oui,
pardon, excusez-moi.
C'est pas grave. Je fais mon Jean-Pierre Bacri.
Oui, c'est ça. En même temps, moi, je suis pas de la famille, si je peux me permettre.
Non, mais oui, pardon. Je dis ça avec beaucoup de tendresse.
Non, mais
pardon.
Oui.
Eh ben oui. Vous voyez, il y a des choses qui sont un peu parallèles parfois. C'est vrai.
Vous écrivez, j'ai si peu de ma mère. J'aurais voulu qu'elle aussi m'écrive, mais comment pouvait-elle imaginer ce qui allait suivre? Je pars de là. Et c'est ça le point de départ de votre livre.
Ben oui, parce que je peux pas m'empêcher, quand je m'aperçois que je suis enceinte, je ne peux pas m'empêcher de me dire, merde, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que il faut que je laisse quelque chose à ma fille. Et bon, et moi j'ai un petit peu plus peur peut-être que d'autres, mais voilà.
Vous dites, devenir mère, c'est devenir folle d'inquiétude.
Oui, c'est vrai, oui. Ah ben oui.
Ouais. Comment vivre avec l'absence d'une mère? C'est aussi ça la question de votre livre, de votre vie.
Mais oui, et en même temps, j'insiste, j'ai eu des mères de substitution et elles sont encore vivantes. Et
Monique, votre grand-mère.
Oui. Et je voulais aussi parler de ces femmes-là parce que j'ai vu cette grand-mère, elle a un courage incroyable. Elle m'a toujours parlé de ma mère ou de mon frère, sans broncher, sans sourciller, avec un immense sourire, simple, généreux, sur le visage. Et c'est moi qui pleurais à l'écouter, parce que ses souvenirs étaient très, très vivants, très présents, et elle avait un tel plaisir à partager ses souvenirs avec moi. Elle y tenait, je sentais qu'elle avait envie de me faire connaître ma mère. Je trouvais ça bouleversant, et surtout elle le fait avec une dignité magnifique, et je suis tellement heureuse d'avoir eu ce courage sous les yeux.
Et paradoxalement, en fait, c'est quand on devient adulte, quand on s'installe un peu dans la vie, que le manque se fait sentir.
Oui, on se dit tiens, quels auraient été nos rapports, quelles discussions on aurait eu, quelles engueulades on aurait eu. Oui, on se pose la question, bien sûr.
Quand on n'a plus sa mère, on ne se sent pas comme les autres.
Si vous voulez, il y a on peut se demander souvent, enfin non, par moment, qui on est. Oui, il y a un truc d'origine, d'où l'on vient, oui, qui est un peu, et en même temps, je sais pas comment vous dire, il y a quand même instinctivement une connaissance parfaite de c'est ce que j'essayais de dire aussi de sa mère, et que peut-être la grossesse suffit, que voilà.
Oui, la connaissance d'une mère par sa fille n'a pas besoin de beaucoup d'années de pratique pour exister, c'est ce que vous dites.
Je crois.
On va laisser la place à nos libraires, vous voulez bien, qui ont lu votre roman au Canada et en Belgique.
Oui.
On va commencer avec le Canada, ça vous va?
Très bien.
Vous connaissez le Québec?
Non, malheureusement pas encore.
On va peut-être falloir y aller, on va voir, on va attendre le commentaire.
J'aimerais bien.
Katia Courteau, c'est à vous.
Oui, je vous y invite.
Ah, merci.
Au Canada. Alors oui, un peu comme on disait de la bande dessinée d'Emmanuel Guibert tout à l'heure, je suis entrée dans votre livre doucement.
Oui.
On sent tout de suite qu'on plonge dans du sensible. Alors, on n'a pas envie de brusquer les choses. Même si ce texte est infiniment personnel, je vous confirme que vous avez écrit un livre plus large que votre histoire. Parce qu'il ouvre la réflexion sur tant de sujets. Et la mère en moi, la fille aussi que je suis, c'est reconnu dans vos doutes et vos désirs, et je suis sortie de votre livre apaisée.
Oh, formidable.
Bon, la Belgique avec Déborah Damblon, qu'en pensez-vous?
Eh bien, en fait, Madame Biasini, moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est vous. C'est vous, vous et la place que vous prenez, vous et vos ressentis, vous, vos questions, vos inquiétudes, vous et parfois vos incohérences, vous, votre belle, belle humanité, vous et votre parentalité bouillonnante. Et je trouve que c'est vraiment justice si ce livre vous rend une place. Alors, mon seul regret, sans doute, eh bien, c'est d'avoir su qui d'autre était votre mère aux yeux du monde et bêtement d'avoir parfois cherché l'actrice dans votre récit, alors qu'au fond, elle n'en est vraiment pas le propos.
Voilà, ça va faire plaisir à Sarah.
C'est vrai. Ouais. Oui, oui, enfin voilà, oui, c'est... Tant mieux, tant mieux.
Bon, à propos de votre fille, vous dites avoir peur de trop l'aimer, d'en faire trop par crainte du passé, par peur aussi de ce qui pourrait arriver, vous l'avez dit. Ça fait mal d'aimer parfois quand c'est intense, ça peut devenir douloureux?
Ben oui, oui, c'est ce que je dis, oui, c'est un amour qui fait mal, qui tord un peu les boyaux un peu plus, parce qu'il est très angoissé, parce que je l'embrasse... en ayant peur qu'il lui arrive quelque chose la minute d'après ou qu'il m'arrive à moi quelque chose. Et donc, j'écrase ma bouche sur sa joue parce que je veux que ce baiser soit imprimé sur son épiderme et qu'elle peut plus. Déjà, elle me repousse déjà. Donc.
Ouais, non, elle a 3-4 ans, là.
Elle a à peine 3 ans, elle me repousse.
Ah ouais.
Je suis déprimée.
Comment votre père, Daniel Biasini, a-t-il perçu votre livre? Il l'a lu?
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il l'a bien perçu. Je pense qu'il avait un peu peur pour moi, mais comme tous les pères, encore une fois, parce qu'il disait peut-être qu'elle se livre beaucoup, c'est très personnel, comment les gens vont le recevoir, voilà. Mais bon, il voyait bien que la démarche était très personnelle et non, je crois, voilà, il est content. Là, pour
parce
moi.
Que vous remettez beaucoup de choses en place, c'est très courageux, Sarah, vraiment, ce que vous écrivez, parce qu'il y a des choses que vous écrivez sur votre mère que vous n'avez jamais dites. Par exemple, beaucoup croient encore que votre mère, donc j'allais dire Romy Schneider,
pardon,
c'est suicidée, mais ce n'est pas le cas.
J'en apporte pas la preuve non plus.
Non, non plus, mais elle ne vous aurait pas laissé, vous en êtes convaincue de ça.
Il y a un truc qui m'a fait très plaisir, j'ai entendu ça, ou j'ai lu ça il y a très peu de temps. Il paraît que Claude Sauté a dit « Je ne laisserai personne dire que, je vais le dire, Romy Schneider s'est suicidée. » Et j'ai trouvé ça très beau. Mais si vous voulez, j'en ai parlé dans le livre parce que ça me paraissait appartenir à mon sujet que de réfléchir à bon... Alors, de dire, étant donné que c'était un personnage public, bon, il y avait eu toutes sortes d'hypothèses à son sujet et au sujet de sa mort, et je me disais « Bon, alors, vas-y... dis ce que tu en penses et moi ce que j'ai dit à la fin c'est que en plus connaissant bien l'histoire et ce qui lui était arrivé juste avant le décès de mon frère, c'est quand même la pire chose qui arrive
à l'âge de 14 ans
à un parent de perdre son enfant, je veux dire il y a rien de pire, hein, voilà. Je sais l'état de chagrin dans lequel elle était. Je ne dis rien quand je dis ça, mais ce qui m'importe, si vous voulez, mon sujet, c'est son absence. C'est pas la manière dont elle est partie. Je m'en fous un peu. Le résultat, c'est qu'elle est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait avec sa présence, absence, etc. Bon, comment ça s'est passé? Le drame, c'est le chagrin de la mort de mon frère.
Bon, vous racontez la belle histoire d'amour entre votre père et votre mère. Il y a un passage, on va terminer avec ce passage, oui. Sarah Biasini, qui dit tout sur cet amour-là entre Daniel et Romy. Vous écrivez, ils sont faits pour l'été. Fait pour la Méditerranée. C'est en y plongeant qu'ils s'étaient embrassés pour la première fois. Je me demande si je connaîtrais ce genre d'amour. Avec eux, j'entends la passion. J'idéalise leurs sentiments. Je reste la petite fille qui regarde ses parents avec admiration comme deux personnes qui ont su s'aimer et vivre. Ils m'apprennent l'amour. Il faudra que je retourne un jour, sans avoir le cœur déchiré, à Ramatuel, où je suis né, où nous avons tous vécu heureux. Là-bas, la terre tremble pour moi.
Oui, c'est vrai. C'est quand on. J'ai eu beaucoup de chance parce que je sais que j'ai eu des parents qui se sont adorés et je sais que j'ai été une enfant désirée. Et ça, déjà, pour démarrer dans la vie, c'est bien.
Vous n'êtes jamais retournée à Ramatuelle?
Si, très peu. Et c'est vrai que les deux ou trois fois, ça me. Oui, ça me fait des frissons.
Bon, on ira peut-être ensemble faire un entretien un jour. D'accord.
Allez.
Merci beaucoup, Sarah Biasini.
Merci beaucoup à vous.
Merci pour cette douceur. La beauté du ciel est parue aux éditions Stock. C'est un livre sublime, lumineux, qu'il faut lire. Vous l'avez entendu, nos libraires sont d'accord avec moi. Dans un instant, on vous emmène dans la forêt canadienne, sous la neige, avec un reportage in situ autour de l'écrivaine Gabrielle Filto-Shiba. Voici le tout nouveau titre de Gaëtan Roussel, tout de suite dans la librairie francophone, extrait d'un album à venir.
Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil, sur un continent, sur une île. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour salou dans une file, dans les rues sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour, la tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais.
C'était le tout nouveau titre de Gaëtan Roussel, Tu ne savais pas.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
En cette période compliquée, on continue à vous faire voyager. Je vous emmène à présent au Québec, sur le Mont Saint-Hilaire, une colline de Montérégie à proximité de Montréal. Gabrielle Filto-Shiba a publié Sauvagine chez XYZ et elle vient de publier son premier roman encabané chez un éditeur français, Le Mot et le Reste. Ses livres parlent de la nature et de notre rapport à la Terre. Voici un reportage réalisé en 2019 dans le froid et la neige avec un décor blanc immaculé. De la neige tout autour de nous avec des cours d'eau aussi qui sillonnent comme cela cet endroit naturel, cette réserve naturelle, quelques cabanes et puis des arbres, des aires de pique-nique pour les promeneurs et beaucoup, beaucoup de neige. Et bonjour Gabrielle Filto-Shiba.
Bonjour.
Vous êtes une auteure québécoise qui défend la nature, donc, et cette région du Kamouraska, dans le nord-est, bien après Québec, à 180 km environ, et vous vivez dans une maison à énergie solaire au bord de la rivière. On a une rivière, justement, à côté de nous. Ça ressemble un petit peu à votre endroit.
Oui, un peu plus de feuillus ici. Chez moi, c'est vraiment la forêt boréale avec prédominance d'épinettes. Je suis très contente de voir d'autres paysages forestiers. Ça me nourrit beaucoup.
Vous avez publié donc Sauvagine chez XYZ. Votre personnage vit dans une roulotte au milieu de la forêt pour être le plus près possible des animaux qu'elle s'efforce de protéger. Pourquoi cet exil en marge de la société, Gabrielle?
Je pense que c'est nécessaire de s'éloigner des bruits pour se rapprocher des animaux et aussi de vivre dans un mode de vie plus simple. Et c'est une belle leçon d'humilité au Québec. Ouais. Parce que l'hiver peut être très violent.
Alors, attendez, je m'enfonce dans la neige, moi, parce que il y a bien 20 cm. Et voilà, on approche du lac, on a une sorte de petite plage. C'est très étonnant parce que on est au bord de l'eau, mais on ne sait pas quand est-ce que l'eau commence, puisque c'est gelé tout autour. La narratrice est en lutte contre les trappeurs, les braconniers notamment, qui font commerce des fourrures de coyotes. Il y en a beaucoup ici au Canada, des trappeurs. C'est un sujet très sensible, notamment concernant les fourrures des vêtements, des parkas, où il y a de grands militants contre, justement, cette exploitation.
Oui, ben en fait, moi, je connais pas beaucoup l'industrie de la fourrure en soi, mais j'avais l'impression d'être un témoin privilégié d'un carnage, en fait. Quand je suis arrivée, il y a à peu près 8 ans, dans le Kamouraska, j'entendais les coyotes à tous les soirs. C'était une chorale épeurante au début, puis ça laissait place, finalement, à de l'émerveillement. Maintenant, c'est le silence. On ne les entend plus. Alors, j'ai voulu, dans mon roman, raconter un peu l'enquête que j'avais menée pour découvrir qu'est-ce qui se passe avec les coyotes, où sont-ils, qui les trappe, est-ce que c'est trappé légalement ou est-ce que c'est du braconnage? Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de la nature pour penser qu'on peut, en tant qu'humain, jouer à Dieu, réguler des écosystèmes. Il y a des gens qui se justifient de trapper ou de braconner les coyotes parce qu'ils font de la déprédation.
Là, Gabriel, on va se diriger vers une cabane là, qui est au fond. On va se protéger un peu, une cabane de couleur gris-vert. Dans la neige. Avec,
il y a des traces de lièvre ici.
Ah oui, des traces de lièvre.
Oui. C'est joli, hein? Les quatre pattes groupées. Boing, boing, boing.
C'est vrai. Alors, dans votre roman, il y a un couple de femmes qui vit une belle histoire d'amour, mais qui se radicalise face aux braconniers. Il y en a un, d'ailleurs, qu'elles ont dans le collimateur et qu'elles vont décider d'éliminer. C'est un peu radical, hein, Gabrielle?
C'est un peu radical, mais je me suis inspirée de quelque chose que j'ai vécu. En fait, moi, j'ai une chienne qui est à moitié husky, à moitié coyote, puis elle s'est prise dans des pièges de braconnage plusieurs fois. Une fois, je l'ai retrouvée, puis elle était vraiment en piteux état, et je pensais qu'elle allait mourir. Et j'étais tellement inquiète pour elle, et j'étais tellement en colère que, bon, je me suis imaginé un scénario dans lequel je pouvais me faire justice et régler tout le problème du braconnage au pays. Mais bon, alors c'est pour ça que j'ai écrit Sauvagine. C'était vraiment une façon de canaliser ma violence à
ce moment-là.
C'est une
vendetta littéraire?
Oui, ça a fait un bien immense, vraiment. Mais bien pour ma santé mentale, en fait.
Vous pourriez tuer pour protéger la nature et les animaux, plus sérieusement?
Tuer? Je pense qu'on est dans une époque où on n'aura peut-être pas le choix de se radicaliser parce que nos gouvernements sont passifs et les leviers ne sont pas à la portée des citoyens, les grands leviers pour empêcher le pire. Mais il y a vraiment une dévastation.
Alors, il y a un petit porche, on va s'abriter.
On voit qu'on n'est pas les seuls à s'être abrités.
Oui, c'est vrai, il y a d'autres pas.
Je lance des écureuils.
Dans cette forêt enneigée. Gabrielle, vous écrivez aussi, parfois l'histoire le démontre, la désobéissance et la rébellion ont permis le progrès. Ça illustre ce que vous venez de dire. Vous y croyez en cela?
Oui, ben c'est moi j'ai lu Thoreau, Henri David Thoreau, et ça a été une grande influence dans ma vie. Alors à travers son expérience humaine, j'ai compris que on pouvait désobéir. En fait, dans certains cas, il faut désobéir. Quand les lois sont injustes, il faut se tenir debout, tenir tête. Encore mieux si on est nombreux.
À un moment dans votre roman, vos personnages, ces deux femmes vont rendre visite à un gros pin centenaire. Elles vont l'enlacer avec leurs bras. Vous le faites, ça?
Oui, je suis allée récemment. Là, c'est drôle que vous m'en parliez parce que c'était vraiment un fantasme. Moi, quand je voyage, je planifie mes voyages en fonction des arbres anciens que je veux visiter. Gros pin, c'est un de nos plus vieux arbres au Québec. Un pin blanc d'environ 450 ans, peut-être même 650. Alors, ça date d'avant la colonisation. Et pour moi, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Un arbre qui nous précède, nous, les Blancs, sur cette terre.
Ça vous donne envie, quand il y a les arbres, là, de les toucher?
Oui, ben je me retiens parce
allons-y,
que...
Allons-y, ben non, allons-y.
En face, ici, c'est un érable. Moi, je le reconnais par les taches noires sur l'écorce.
Ah oui, exact.
Oui.
Alors, allons enlacer un érable.
C'est quand même symbolique, on est au Québec, hein,
oui,
on reste
ça.
Dans le thème.
Alors, je laisse commencer.
Oh. Alors, ça, c'est comme si j'étais branchée sur le gros courant.
Attendez, je vais vous rejoindre. Il y a un petit banc juste à côté, il y a plein de neige. Je vais poser mon matériel sur la neige. Attendez, hop. Je vais en enlever un petit peu.
Vous allez voir, ça vous
voilà, même. Hop. Allons-y, enlaçons l'arbre.
C'est un peu comme avoir un nouveau-né dans les bras, mais là, on a un être ancien.
Ça a un autre son en plus.
Oui.
Comme s'il captait notre voix et qu'il la répercutait dans le micro.
Moi, je me demande toujours comment ils se sentent, les arbres, parce qu'ils vivent des grands changements. Hein, le climat change. Tout à l'heure, on entendait des oies sauvages. Puis c'est étrange parce que c'est vraiment pas le moment. Ils devraient être déjà réfugiés loin. Là.
Il y a un côté très sensuel, très charnel dans la nature. Et dans votre livre aussi, vous le décrivez, ça. Ce rapport à la nature, comme on est en train de le faire. On est collé à un arbre, hein, je précise à ceux qui nous écoutent complètement.
Vraiment le visage collé sur l'écorce. Mais oui, parce que de vivre dans la nature, ça aiguise les sens. C'est fascinant.
Bon, on va laisser là parce qu'il est un peu froid.
Oui, un peu humide.
Si vous pouvez mettre un manteau la prochaine fois. Bon, il est magnifique cet arbre, cet érable, avec cette écorce caractéristique. Vous le dites, effectivement, on reconnaît les érables avec leurs taches brunes sur l'écorce. Et...
Juste à côté, on a un être. Les êtres, ils ont une écorce lisse, un peu comme une patte d'éléphant. Puis ils cohabitent avec les érables, dans les érablières.
On va essayer de ne pas glisser parce que en marge des sentiers, il y a de petites routes glacées et ça glisse beaucoup. Des jolies chaussures rouges, Gabriel, mais... Alors, on retrouve la neige, ça va être plus accrocheur. Alors, Gabriel Filtoshiba, vous racontez dans votre roman que les hommes se mettent en danger, en mettant eux-mêmes en danger la nature, mais en fait, personne ne réalise vraiment cela. Personne ne réagit vraiment. Ça vous énerve, ça ?
Énervé, c'est le mot est peu fort. Non, ça m'inquiète, ça me préoccupe. C'est une peur vraiment viscérale qui m'habite au quotidien. Parce que je me réveille le matin et j'entends le bruit des scies à chaîne. Même si j'habite dans la forêt, j'entends le train qui passe au village voisin et qui transporte du pétrole à toute vitesse sur des rails en mauvais état. Et c'est ça, j'entends de moins en moins les animaux. Alors j'aimerais qu'on protège nos forêts, j'aimerais qu'on revoie notre façon d'exploiter nos ressources de manière plus durable, plus consciente.
Alors, on arrive au pied d'une petite colline. On va terminer ici, à Gabriel, à la croisée des chemins, au milieu de la forêt, pas très loin du lac, à côté de cette colline et de tous ces arbres qui nous entourent, et des traces d'animaux que vous reconnaissez à chaque fois.
Des traces de chevreuils.
Merci pour cet entretien ici dans la forêt du Mont-Saint-Hilaire. Votre roman Sauvagine est paru chez XYZ. À bientôt, Gabriel.
Merci, bonne lecture.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
À noter que le premier roman de Gabriel Filtoshiba, Encabané, est publié, republié chez un éditeur français, Le Mont et le Reste. La chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur tout de suite. Cap sur la Suisse avec un coup de cœur dans le rayon des beaux livres, Dominique Bressoux.
Oui, un énorme gros coup de cœur pour un livre superbe. C'est Les écrits d'art brut de Lucienne Perry. Alors les écrits de l'art brut, ils ont été créés souvent dans l'enfermement en asile psychiatrique. Et dans tous les cas, dans une solitude extrême. Issus de délire, ils étaient interceptés par les médecins. Et Lucienne Perry a regroupé les textes de 30 auteurs qui vous montre des inventions langagières, des labyrinthes graphiques de mots, de phrases, de signes, un débordement de créativité, et c'est magnifique.
L'art brut très présent, très valorisé d'ailleurs en Suisse, avec oui. ce livre « Écrit d'art brut » de Lucienne Perry aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Dominique. Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Oh oui, un coup de gueule Emmanuel.
Qu'est-ce qui se passe?
L'Académie royale de langue et de littérature de Belgique. Oui. oui, excusez du peu. Ils viennent, comme chaque année, de remettre leur prix. Il y en a 8, c'est dans des domaines différents. On a du roman, du théâtre, de la poésie, il y a même un prix découverte. Mm-hmm. Bref, je vous le donne en 1000. Sur les 8 lauréats, il y a combien de lauréates?
Bah, 8.
Pas une seule, pas une lauréate.
Pas une seule.
Et à peine plus parmi les sélectionnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleure ou on se fâche? Et surtout, surtout, qu'on ne vienne pas me dire que c'est parce que le critère de sélection, c'est la qualité.
Ouais, ouais, ça, c'est vrai que ça revient souvent. Bon, merci, vous avez raison pour ce coup de gueule. Hein. On en parlait d'ailleurs lors du prix Goncourt, hein. Avec les femmes. Hein, on avait fait le compte. Oui. Très, très peu de femmes
J'ai
en 107 ans. Il y a de quoi dire. Bon, allez, courage. Katia Courtois, un coup de cœur BD au Québec.
Oui, je suis très contente de pouvoir vous parler de ce beau coup de cœur qui aime... Terre maternelle de Djibril et Yasmine Fan Morissette, publié chez Glénat. C'est vraiment une bande dessinée touchante où l'illustrateur et la scénariste, qui sont frères et sœurs, Montréalais, nous racontent l'histoire de leur famille d'origine vietnamienne. Ces trois récits disent la richesse et la transmission entre les générations et la quête identitaire. Le dessin, lui, fouillé, très beau, dont les détails s'entrelacent, montre la force des racines familiales. J'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Et c'est aux éditions Glénat, qui aime Terre maternelle. Merci Katia, enfin un coup de cœur et un hommage, Sophie Todescato en France.
Oui, je voudrais rendre hommage à Vassilis Alexakis, qui était un des grands écrivains francophones qui vient de mourir à Athènes. Alors, il avait été récompensé par le Grand Prix de l'Académie française, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose d'académique chez Alexakis, plutôt de l'insolence, une ironie très pince sans rire, qui n'empêchait en même temps ni la mélancolie, ni une réflexion sur des thèmes assez politiques, le rapport entre la langue qu'on parle et l'identité, la manière dont les langues peuvent être l'otage des croyances ou des nationalismes, ou encore le sort fait aux immigrés ou aux déracinés. Alors, si on veut découvrir Alexakis, on peut lire par exemple Les mots étrangers, ou encore La langue maternelle, pour lequel il avait obtenu le prix Médicis, c'est disponible chez Stock et puis en folio.
Oui, Vassilis Alexakis, mort à l'âge de 77 ans, vous avez tout dit. Merci beaucoup d'avoir salué sa mémoire, Sophie. Vous retrouverez aussi la séquence consacrée aux bibliothèques la semaine prochaine. Et merci à tous nos libraires d'être intervenus. Au revoir à toutes.
Au revoir, Emmanuel.
Au revoir, Emmanuel.
Bien, elles sont en forme. À bientôt.
Au revoir.
On termine avec une musique populaire quelque part dans le monde, dans un pays membre de l'OIF. Voici Fally Ipupa, numéro 1 en ce moment en Côte d'Ivoire.
Aïe lélé, nana lélié, aïe lélé. Je ne voulais pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination ma. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe oh lélé, nana lélié, aïe oh lélé. Affronter la mer, les vagues, les océans, et faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe oh lélé, nana lélié. Aïe oh lélé, entendez. Entendez-les, entendez-les,
Un extrait de Migrants des rêves de Fally Ipupa, numéro 1 en ce moment en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Élise Christophe à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Nicolas Julliard et Sophie Gricoucho en Suisse. René Mikils avec Valérie Dupuit en Belgique. Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons avec Boris Cyrulnik au bord de la mer dans sa résidence du Var en France pour un entretien exceptionnel, entre autres. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous, salut.